Vous êtes sur RTL.
Entends.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 22 juillet, un peu de silence. Le bruit est un fléau qui touche 9 millions de Français à cause des transports, des chantiers ou tout simplement des voisins. Et son coût social est astronomique, plus de 155 milliards d'euros par an. Nous serons avec Lauriane Rossi, présidente du Conseil national du bruit. L'affaire Pegasus, prise très au sérieux par l'exécutif Emmanuel Macron, a convoqué ce matin un conseil de défense exceptionnel pour évoquer l'espionnage et la cybersécurité. Orange, pleinement responsable de la gigantesque panne des numéro d'appel d'urgence il y a un mois et demi. Le rapport commandé par le gouvernement dénonce un manque de préparation et une réactivité insuffisante. Dans RTL Midi aussi, nous suivrons les débats au Parlement sur le projet de loi prévoyant des restrictions de passe sanitaire. Les consommateurs qui refuseront de remplir le cahier de rappel dans les restaurants risquent d'être sanctionnés. Une entame et une défaite. L'équipe de France de football a été battue 4-1 par le Mexique en ouverture des Jeux Olympiques ce matin à Tokyo. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Il fait beau et chaud.
Exactement. Allez, histoire de 2-3 nuages côtiers sur le golfe du Lion. Ça se dégage actuellement près de l'Aquitaine. Et puis sur le relief des Pyrénées, peut-être une petite averse. Mais sinon, c'est vrai que c'est tout bleu pour tout le monde. Côté température, il fait chaud, vous l'avez dit, avec des pointes possibles à 37 degrés cet après-midi vers le Tarn. 36 à Toulouse, 35 à Bordeaux et Nîmes, 33 degrés à Marseille, 32 à Nantes et Tours, 31 à Brest comme à Lyon, 30 à Paris, 29 à Strasbourg et Rouen et 27 à Lille. Et puis je rappelle qu'il reste deux départements en vigilance orange crue, l'Aisne et l'Oise.
La question du jour sur RTL.fr à propos du pass sanitaire. Le gouvernement a-t-il raison d'assouplir les règles? Alors vous êtes très partagé, 47% de oui, 46% de non. Le débat s'annonce donc passionnant au 32-10 à partir de 13h.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Si vous avez aimé La Goutte froide, vous allez peut-être adorer l'épisode remarquable de chaleur. Depuis lundi, dans le Finistère, un département pour le moins tempéré, on dépasse les 30 degrés, en particulier du côté de Brest. Les 5 derniers jours ont même été les plus ensoleillés depuis l'ouverture de la station météo en 1945. Et pour une fois, on cherche l'ombre, Nicolas Bobby.
Oui, je suis à Brest même. Comme disent les Bretons, 30 degrés ont rôti véritablement sur la place de la mairie.
Quel bonheur! On crève de chaud, hein. Je suis allé acheter une bouteille d'eau là, parce que je crève de chaud. Parce que franchement, ça fait 2 mois qu'il fait un temps horrible. Donc je suis très content du soleil, je ne me plains pas.
Vous l'aviez jamais vu aussi longtemps, hein, d'affilée.
Ah non, mais c'est incroyable, c'est normal, il n'a pas été là pendant 2 semaines, donc il se rattrape.
Heureusement, il y a un petit jet d'eau, les enfants n'avaient jamais connu à Brest une telle chaleur.
Ici, il fait lourd, il y a un peu de nuages et beaucoup de soleil. Moi, je trouve qu'il fait un peu trop chaud, j'arrive pas à dormir le soir.
Dans les bureaux, parfois, c'est insoutenable.
Il est vrai qu'on a du mal à s'habituer.
C'est la pause et on cherche l'ombre, effectivement. Il fait très chaud à Brest ces derniers temps, là, donc on cherche la fraîcheur. Et après, le soir, on va chercher la plage.
À défaut de casquette, on peut toutefois se protéger de ce virulent soleil avec un parapluie.
Nicolas Bobby, on reconvertit les parapluies à Brest sous la canicule. Encore un conseil de défense ce matin, mais pas sanitaire celui-là. L'exécutif prend très au sérieux l'affaire Pegasus. Le numéro de téléphone portable d'Emmanuel Macron fait partie des milliers de numéros susceptibles d'avoir été espionnés en France. Le président est souvent critiqué pour ne pas assez utiliser de téléphones cryptés. Et ce conseil, ce matin, c'est d'abord un symbole, William Galibert, une façon de mettre en scène la riposte.
Oui, pour l'instant, on a dû se contenter de déclarations un peu embarrassées ou de banalités. Exemple avec Jean Castex hier qui dit « Nous allons regarder ça de très près ». Bon, c'est un peu léger. Donc effectivement, là, Emmanuel Macron tente de montrer la contre-attaque. Mais on parle d'espionnage, on ne saura sans doute jamais rien des suites de cette affaire. On nous a juste indiqué que des protections sont déjà installées sur les portables du président qui préfère ses iPhones aux téléphones cryptés et pas vraiment pratiques du gouvernement. Et puis Christelle, c'est aussi la prochaine présidentielle qui est déjà dans les esprits. La hantise, ce sont d'autres piratages ou des tentatives d'ingérence étrangère qui viendraient troubler la campagne, influencer le résultat. Ça, c'est un vrai sujet d'inquiétude pour le chef de l'État qui devrait proposer à tous les candidats pour 2022 d'être accompagnés par l'agence d'État spécialisée dans la cybersécurité.
William Galibert, souvenez-vous, c'était le 2 juin dernier. Une panne géante affectait les numéros d'appel d'urgence chez Orange durant 7 heures. 6 décès sont d'ailleurs potentiellement liés à ce qui était présenté comme un bug. Le Le rapport commandé par le gouvernement vient de rendre ses conclusions et sans surprise, Sophie Jousselin, il met en cause l'opérateur.
Oui, d'abord avec une opération de maintenance qui se passe mal. Elle visait à augmenter les capacités techniques de l'opérateur pour écouler davantage d'appels provenant des mobiles et des box vers le vieux réseau de cuivre qui équipe encore la majorité des centres d'urgence. C'est cette intervention qui va mal tourner. Le rapport fait état de commandes informatiques passées sur 6 équipements en même temps et pas dans le bon ordre, aggravées par un bug logiciel majeur inconnu jusque-là. Alors là, c'est pas de la faute d'Orange, mais de l'équipementier. Sans ce bug, précise le rapport, la panne aurait quand même eu lieu, mais elle n'aurait duré qu'une quinzaine de minutes. L'opérateur est aussi épinglé sur sa gestion de la crise. Il a mis trop de temps, une heure, pour comprendre que la panne touchait les services d'urgence. Trop de temps aussi, 2 heures pour informer les autorités et près de 3 heures pour mettre en place un dispositif adapté. Le rapport recommande que les appels d'urgence soient désormais considérés comme des appels prioritaires et vitaux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce sont des appels tout ce qu'il y a de plus banal. Il préconise aussi de réaliser régulièrement des exercices de crise avec tous les opérateurs. Le premier aura lieu dans les 6 mois.
Sophie Jousselin, c'est un ennemi invisible qui pourrit nos jours et encore plus nos nuits, le bruit. 9 millions de Français le subissent et c'est le fléau qui provoque le plus de dommages sanitaires en Europe juste après la pollution. L'ADEME, l'Agence de la transition écologique, publie aujourd'hui un rapport et on s'aperçoit que le coût social du bruit dépasse 155 milliards d'euros. Bonjour Lauriane Rossi.
Bonjour.
Vous êtes présidente du Conseil national du bruit. Vous avez mené cette étude. Comment arrivez-vous à ce chiffre? Qu'est-ce qu'il recouvre?
Alors, j'ai souhaité, en tant que présidente du Conseil national du bruit, effectivement, mener cette étude avec le Conseil et l'ADEME pour mesurer précisément l'impact du bruit sur la santé des Français. Et nous arrivons effectivement à ce chiffre extrêmement important, 156 milliards d'euros qui recouvrent à la fois toutes les dépenses de santé. On va retrouver les consultations médicales, les arrêts maladie, les arrêts de travail, les hospitalisations liées au bruit, parce que le bruit génère des pathologies, des maladies chez les Français qui sont les plus exposés. Je pense aux troubles du sommeil, aux troubles cardiovasculaires, à l'hypertension, etc. Donc on a chiffré tout ça. Et puis parallèlement, on a chiffré aussi le coût social. Et là, on va retrouver la perte de productivité, la perte de croissance liée à la pollution sonore. Et puis la dépréciation immobilière aussi. C'est-à-dire que les personnes dont le logement est très exposé au bruit, voient sa valeur immobilière diminuer. On a chiffré ça. On arrive donc à ce chiffre de 156 milliards d'euros qui doit tous nous alerter. Mmh. Je le dis aussi en tant que députée, il faut que les pouvoirs publics soient à la hauteur de l'enjeu.
Quelle est la principale cause de nuisance aujourd'hui? Les transports?
Tout à fait, la principale cause de pollution sonore, c'est les transports et notamment le transport routier qui reste la première source de nuisance. Vous avez d'autres sources, évidemment le transport ferroviaire, le transport aérien. Et puis juste derrière le bruit routier, le bruit des transports, vous avez les bruits de voisinage, à peu près 20% des nuisances. Et là, on va retrouver non seulement évidemment le bruit du voisin, mais pas que. On va retrouver toutes les activités qui peuvent entourer le logement, donc des entreprises, des industries, des circuits automobiles qui peuvent être aux abords des habitations et qui sont une véritable source de nuisance, qui empoisonne le quotidien des Français.
Que proposez-vous en ville? Par exemple, baisser la vitesse de circulation, ne serait-ce que de 10 km/h, ça aurait vraiment un impact?
Oui, on se rend compte en fait que si on s'attaque au bruit à la source, on peut y arriver et sans trop...
Ah, on a un petit problème de liaison, désolé. Pardon, je crois qu'on va essayer de retrouver Lauriane Rossi. Non, voilà, la liaison a été coupée. Merci en tout cas, Lauriane Rossi, qui était présidente du Conseil national du bruit et qui estime donc que le coût social de cette nuisance sonore s'élève à 156 milliards d'euros. Une pause et dans un instant, le Covid en mode variant Delta, une épidémie de jeunes.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Passe sanitaire, obligation vaccinale des soignants. L'examen du projet de loi du gouvernement prend plus de temps que prévu au Parlement. On y reviendra dans un instant. Jean Castex s'est fixé l'objectif de personnes vaccinées à la fin du mois d'août. C'est l'objectif de 50 millions de personnes pour prendre de vitesse le variant Delta. Aujourd'hui, plus de 38,5 millions de premières doses ont été injectées et 31,8 millions de personnes sont complètement vaccinées dans notre pays. Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris soulignait ce matin encore sur RTL l'urgence à vacciner.
On a affaire à une épidémie, mais essentiellement de patients non vaccinés. Je crois que vraiment le message, c'est que les gens qui ont plus de 50 ans, qui sont vraiment à risque, il faut vraiment se faire vacciner parce qu'il reste très peu de temps pour se protéger.
L'obligation vaccinale, professeur Crémieux, pour les soignants, ceux qui étaient récalcitrants, ils ont changé, ils ont pris le sens inverse.
Vous avez toujours, quand on prend des mesures d'obligation, des gens qui vous disent qu'ils ne le feront jamais. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront jamais. Quand vous regardez le pourcentage de personnes qui disent, depuis le mois de décembre, qu'ils ne se feront jamais vacciner, il a fondu. On est parti de 40%, on est maintenant à 12-13%. Oui, il va y avoir une normalisation de la vaccination, comme il y a eu une normalisation du port du masque. Rappelez-vous au départ le nombre de gens qui nous disaient « je ne porterai jamais de masque ». C'est ça la santé publique. Il faut savoir que les mesures s'installent, les comportements changent.
Anne-Claire Crémieux, invitée de Stéphane Carpentier sur RTL. Le pendant de la vaccination, c'est évidemment le pass sanitaire dont les conditions sont assouplies pour les adolescents ou encore dans les restaurants. Et à l'Assemblée nationale ce matin, certains amendements sont allés plus loin que le texte du gouvernement, Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, avec cet amendement du MoDem Christophe Blanchet pour obliger les clients des restaurants à laisser leurs coordonnées.
Combien d'entre nous avons rempli ce cahier de rappel lorsqu'on a été dans un restaurant ou autre? Je sais pas, mais moi, pour ma part, pas beaucoup.
Car l'absence de contrôle d'identité montre bien l'absurdité du pass sanitaire pour la socialiste Christine Pires-Beaune.
Vous venez tout bonnement d'inventer un outil qui va aboutir à la multiplication des clusters. Abandonner cette idée de fait inefficace et surtout potentiellement très dangereuse.
Les Républicains, eux, demandent que les activités de plein air en soient exemptées, exemple à l'appui d'Isabelle Valentin.
J'ai eu hier, moi, le dirigeant d'un acrobranche qui, effectivement, m'a appelé hier soir en me disant qu'il s'était fait insulter toute la journée. Les gens font 50, 60, 70 kilomètres pour venir et quand ils arrivent, on leur dit « bah non, je suis désolé, vous pouvez pas monter ».
Alors, le MoDem Bruno Millienne vient à la rescousse du gouvernement en ironisant.
Je viens d'apprendre un truc terrible. Tenez-vous bien, pour circuler avec ma voiture, j'ai besoin d'un permis de conduire avec une photo dessus et je dois être en mesure de le présenter. C'est totalement attentatoire à mes libertés.
Le gouvernement voulait expédier le débat en quelques jours. Il doit ronger son frein.
Marie-Bénédicte Allaire à l'étranger. Angela Merkel s'inquiète d'une dynamique exponentielle de l'épidémie. Elle redoute un doublement en moins de 2 semaines et exhorte les Allemands à se faire vacciner. 48% des Allemands ont déjà reçu leurs 2 doses. Il ne faudrait pas que le variant Delta étouffe la reprise, d'autant que les chiffres sont exceptionnels. Il y a eu 2 200 000 créations d'emplois en CDI au deuxième trimestre. C'est un record, en particulier au mois de juin. Quels sont les secteurs qui embauchent, Nerissa Emani?
Eh bien, les secteurs qui embauchent sont surtout les secteurs des services et du commerce, et notamment dans l'hôtellerie et la restauration. Après des mois de fermeture à cause de la crise Covid, on compte plus de 510 000 recrutements ce dernier trimestre. Et puis, autre augmentation à noter dans le domaine de l'industrie. La bonne nouvelle, c'est que les entreprises optent pour des contrats longs, plus 21% d'augmentation des CDI par rapport au trimestre dernier, plus 13% des CDD de plus d'un mois. Les entreprises qui embauchent sont à la fois des TPE, des sociétés de moins de 20 salariés et des structures de plus grande taille. À savoir que les embauches en CDI progressent 3 fois plus rapidement que celles en CDD dans les plus grosses structures. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est que nous sommes revenus à un niveau d'embauche d'avant la crise Covid, avec une augmentation de 1,7% des contrats par rapport au dernier trimestre de 2019.
Et si vous êtes chef d'entreprise et que vous manquez de bras, appelez-nous au 32 10, vous pourrez lancer un appel après 13h. En finir avec les contrôles au faciès. Pour la première fois, un collectif d'associations défendant les droits de l'homme saisit la justice. Une action de groupe pour enjoindre l'État à cesser les contrôles d'identité discriminatoires de la part de la police. Elles avaient déjà demandé au gouvernement de prendre des mesures concrètes. Il avait 4 mois pour y répondre. Le délai a expiré, Anne Lehnaff.
Oui, tout cela dans un puissant silence, dénoncent ces 6 ONG, dont Amnesty International, Human Rights Watch et l'association MCDS, représentée par Omer Mascapitolin.
Moi, je suis un citoyen, quand je me lève le matin, je ne me regarde pas dans un miroir en disant « je suis noir ». C'est dans les interactions du quotidien, et en particulier avec la police, qu'on me renvoie à ce questionnement-là. Et c'est ça qui pose problème. La population environnementale voit toujours les mêmes se faire contrôler et finissent par avoir, je dirais, une certaine méfiance de nous.
Ces contrôles sont dégradants, humiliants, touchent aussi des très jeunes, âgés parfois de 12 ans, pour qui la police, c'est la première représentation de l'État. Emmanuel Macron lui-même a regretté à la télévision ses contrôles au faciès, mais depuis, rien n'a été fait. Maître Lyon-Camp a donc déposé une requête devant le Conseil d'État.
Et c'est donc la première fois qu'une action de groupe est engagée contre l'État pour faire cesser un manquement de l'État. On ne demande pas 1 000 euros de dommages-intérêts. C'est vraiment des mesures concrètes d'éradication de cette pratique.
Il faudrait par exemple supprimer ces contrôles administratifs qui sont faits au hasard dans la rue et s'interroger aussi sur l'IGPN. Comment une plainte, lorsqu'un contrôle se passe mal contre la police, peut être traitée par un service de la police ?
Anne Le Hénaff. À l'étranger, plus de 200 migrants venant d'Afrique subsaharienne ont pénétré ce matin dans l'enclave espagnole de Melilla. Ils ont franchi la haute clôture qui tient lieu de frontière avec le Maroc. C'est l'une des arrivées les plus massives de ces dernières années. On se souvient qu'il y a 2 mois déjà, le même scénario avait eu lieu dans une autre enclave espagnole, Ceuta. Les Jeux Olympiques de Tokyo, les Bleus du foot ont essuyé les plâtres ce matin. L'équipe n'a rien à voir avec celle qui a participé au dernier Euro. Et sur le terrain, la France a été écrasée 4-1 par le Mexique. Drôle d'entame pour les hommes de Gignac, Baptiste Durieux.
L'ancien Marseillais, qui est d'ailleurs l'unique buteur français sur pénalty, c'est bien évidemment anecdotique puisque le résultat est lourd, mais d'une logique incontestable des Bleus sans repère, sans automatisme, qui ont subi quasiment l'intégralité de la rencontre face à des Mexicains qui ont un vécu en commun, un collectif, une réelle tradition olympique, qui ont été médaillés d'or en 2012. Les Bleus, eux, payent un manque criant de préparation. Un seul match amical face à la Corée pour une équipe qui ne se connaît absolument pas. Et puis un effectif rafistolé, composé à la hâte, très inexpérimenté. Tout cela en résulte, entre autres, de refus perpétuel des clubs de libérer leurs meilleurs éléments. On pense par exemple à Eduardo Camavinga et le Stade Rennais. Six lumières, pour rester positif, il y a au bout de ce tunnel bien sombre. Le Mexique était l'adversaire le plus relevé du groupe. Il reste 2 matchs dans cette phase de poule. On rappelle que les 2 premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale. Mais voilà, le premier et dernier joker est déjà grillé.
Bon, on garde quand même des raisons d'espérer.
Toujours, parce que le groupe est solide et confiant.
Bon, les Jeux Olympiques, quand ça veut pas, décidément. À la veille de la cérémonie d'ouverture, le directeur artistique du spectacle a été démis de ses fonctions pour une mauvaise blague sur l'Holocauste remontant à il y a plus de 20 ans. On fait une pause et dans un instant, la chronique du jour, Pékin, ville olympique.
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
Pékin est la seule ville de l'histoire à accueillir 2 fois les 2 Olympiques d'été. C'était en 2008 et d'hiver. Ce sera l'an prochain en 2022. Découverte de la capitale chinoise sous son versant sportif avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Pambrin.
RTL, les Jeux sont faits.
Les Jeux sont faits.
Les Jeux sont faits.
Il y a 14 ans, le 8 août 2008, ce quartier de Pékin qui entoure le stade olympique, coincé entre le 4e et le 5e périphérique, était le centre du monde. La télévision d'État chinoise en français, comme tous les médias, relayait cette cérémonie d'ouverture grandiose.
La cérémonie d'ouverture a été qualifiée par les spectateurs et la presse internationale de spectaculaire et envoûtante.
Dans un stade olympique surnommé le nid d'oiseau en raison de son architecture, 91 000 places sur plus de 20 hectares. Le français Pascal Gentil, double médaillé olympique de taekwondo, faisait partie de la délégation française. Tombé amoureux de Pékin pendant ces Jeux, il a décidé de s'y installer.
Il faut se remettre dans le contexte, hein. Il n'y avait pas de jauge, de quota, il n'y avait pas de Covid et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On était tous agglutinés avec des petits goodies qui étaient placés sur les sièges pour pouvoir nous permettre de faire du bruit tous en même temps. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose de, j'y repense et j'en ai la chair de poule, c'était vraiment extraordinaire.
Luluel est une jeune Pékinoise. Elle a déménagé en l'an 2000 dans ce quartier.
C'était un quartier typiquement pékinois. Il y a des petites boutiques, il y a des résidences, comme tous les quartiers d'à Pékin.
Et à une encablure de chez elle, un vaste terrain vague allait accueillir le parc olympique.
Moi, je trouve le stade Nez d'Oiseau. Je peux pas dire il est beau ou pas, mais il est très spécial. Il est très spécial, on peut pas l'oublier, très remarquable. Et par contre, j'aime bien la grande piscine, surtout le soir quand il y a la lumière, et il devient tout bleu et ça flotte, c'est vraiment très joli.
Aujourd'hui, la zone est l'une des attractions les plus visitées de Pékin. Des dizaines de milliers de touristes s'y rendent chaque jour.
Maintenant, ça devient très touristique. Hein. Des fois, je passe juste à côté, la rue juste à côté, je vois plein de grands bus de tourisme. Ils ramènent des milliards de touristes.
J'ai la nostalgie, j'ai la chance d'habiter à Pékin du côté de Sanlitun. Et un coup de scooter, je me retrouve et je me balade dans le parc olympique. Et ouais, c'est des bons souvenirs. Pékin, c'est une ville où il fait très bon vivre. paradoxalement, il y a quelques années, il y avait des taux de pollution qui étaient très élevés. Et je me souviens, quand j'allais courir, j'avais des difficultés. Maintenant, aujourd'hui, il y a énormément d'efforts qui sont faits pour la pollution de l'air. Mais au côté de ça, on peut aller faire du trek à la muraille de Chine. Que ce soit nautique ou cyclisme ou course à pied, il y a toujours plein d'événements et je trouve ça très très sympathique.
Et quand la nuit tombe, la dalle qui entoure le grand stade devient une scène ouverte pour les danses traditionnelles et le karaoké. Les JO 2008 étaient les jeux de la démesure, avec un coût total de 26 milliards d'euros, dont 17 consacrés aux seules infrastructures. La Chine faisait exploser les records. Et Pékin, capitale longtemps grise et uniforme, s'est appuyé sur ces jeux pour faire un grand bond en avant. Un nouvel aéroport, 3 nouvelles lignes de métro, des autoroutes et un quartier flambant neuf, dont le prix au mètre carré a explosé.
Depuis 2000 ans, ça va monter plus que 15 fois. Hein. Plus que 15 fois facilement.
Le même nid d'oiseau va accueillir les prochains Jeux d'hiver en février 2022. Pékin deviendra alors la première ville au monde à accueillir à la fois les Jeux d'été et les Jeux d'hiver.
Dans un instant chaud devant, la météo de Peggy Broche.
RTL Midi.
Et on retrouve Peggy Broche pour la météo. 31 degrés à Brest, on en parlait au début de ce journal. C'est vraiment la journée la plus chaude de la semaine sur la moitié ouest.
Oui, surtout que ça fait 3 jours consécutifs qu'en Bretagne, il y a des températures aussi élevées. Et donc ça, c'est assez exceptionnel. Et à l'ouest, vous l'avez dit Christelle, on attend des pointes possibles à 37 degrés dans le Tarn, notamment du côté d'Albi par exemple. 36 à Montauban, 35 à Agen, 33 degrés à Montélimar et Limoges, 32 à Rennes, 31 à Grenoble, ainsi qu'à Aurillac. Vous voyez, on est souvent au-dessus des 30 degrés. 30 à Dijon, Orléans, Paris, Alençon, 27 degrés à Metz, Abbeville et Nice et 25 à Cherbourg. C'est la température la plus basse pour cet après-midi. Côté ciel, pas grand-chose à signaler, une carte presque parfaite. Allez, quelques petits nuages côtiers possibles encore cet après-midi sur le golfe du Lion. Ça se dégage bien du côté de l'Aquitaine. Il y avait pas mal de grisailles ce matin, mais il ne reste plus que quelques grisailles sur la côte landaise. Mais pareil, on n'en parlera plus. Et puis peut-être une petite averse sur le relief des Pyrénées. Mais partout ailleurs, c'est un grand ciel bleu. On en profite, ça ne va pas durer. Et je rappelle qu'il reste encore 2 départements en vigilance orange cru. La décrue est vraiment très lente, l'Aisne et l'Oise.
Bon, et demain, donc un arrosage bienvenu en Bretagne.
Oui, alors grosse dégradation orageuse hein, sur la Bretagne demain. Ça va se passer en deux temps. D'abord le matin, dès le matin, on aura des orages assez forts avec du vent, avec de la grêle. Des entrées maritimes également dans la matinée, toujours sur l'Aquitaine. Donc des nuages qui vont donner un ciel un peu gris, mais ça va se dissiper également. Et partout ailleurs, du très beau temps. Et puis en deuxième partie d'après-midi, nouvelle vague orageuse, toujours sur la Bretagne. Attention parce que les orages pourraient être très violents, avec de fortes rafales de vent, des chutes de grêle, beaucoup de pluie, des pluies diluviennes. Donc vraiment situation à surveiller. Et le ciel va se couvrir également sur la façade atlantique du coup. Et il sera légèrement voilé sur une bonne partie du pays. On aura juste du grand bleu encore sur les frontières du Nord et près de la Méditerranée. Ailleurs, même si le ciel sera voilé, de toute façon l'impression sera encore belle hein, dans la journée. Mais attention parce que ces orages vont arriver dans la soirée sur les parties centrales du pays, entre le massif central et le nord-est en cours de nuit. Côté température, elles resteront chaudes. Et là, cette fois, aujourd'hui, les températures les plus chaudes sont à l'ouest. Et là, demain, les températures les plus chaudes, ce sera à l'est. Exactement, vous avez tout compris. 23 degrés, du coup, à Cherbourg, sous les pluies. Jusqu'à 36 à Lyon, 35 à Toulouse, 34 à Montélimar, 31 à Strasbourg, Paris, Reims et Rennes.
Et comment se présente le week-end ? Mitigé, je sens.
Très mitigé, évidemment, et orageux, surtout puisque samedi, du coup, ces orages qu'on va retrouver dans la soirée de vendredi à samedi et dans la nuit, on va les retrouver entre les frontières du Nord et le massif central. Attention, parce qu'on peut avoir des orages assez forts par endroit. Et puis, on aura encore beaucoup, beaucoup de pluie entre la Bretagne et la Basse-Normandie, des pluies diluviennes et du vent. Et puis, on aura quand même une partie sèche hein, sur le sud-est, évidemment, près de la Méditerranée et entre l'Aquitaine et la Haute-Normandie. Et dimanche, eh bien, ces orages, on va les retrouver sur la façade est du pays. Et sur le nord-ouest, on aura un ciel mitigé entre nuages, éclaircies, quelques coups de tonnerre vers la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais. La Méditerranée, ça restera dégagé. Et du sud-ouest au nord-est, pareil, un temps mitigé entre nuages, éclaircies et quelques averses encore.
Donc, si j'ai bien compris, il faudrait être extrêmement prudent sur la route ce week-end.
Exactement.
Pour ceux qui partent. Merci Peggy. Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christelle Robière.
Vous avez la parole jusqu'à 14h. J'aimerais qu'on dialogue autour des nouvelles modalités du pass sanitaire. Le gouvernement a-t-il raison d'assouplir les règles? On pense en particulier aux restaurants qui n'auront pas à faire des contrôles d'identité en terrasse. Si vous êtes chef d'entreprise, appelez-nous au 3210. Vous manquez de bras, c'est le moment de passer votre annonce. On parlera du bruit qui nous casse les oreilles, qui affecte notre santé. On en parlait dans le journal. Si vous faites partie des 9 millions de personnes qui subissent les nuisances de la rue ou des voisins, témoignez. Et puis on passera à table tous ensemble. On parle souvent d'obésité, mais finalement la France est le pays d'Europe où il y a le moins de personnes en surpoids. Le docteur Cocolle, le nutritionniste, sera avec nous. Dites-nous si vous avez changé votre alimentation et puis donnez-nous aussi quelques recettes estivales pour être à la fois svelte et repu sur la plage. Et puis on finira l'émission, comme chaque jour, avec votre chanson de l'été. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
On parle du pass sanitaire. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ces assouplissements?
Alors, bah, écoutez, moi, je trouve qu'elles ne sont pas du tout justifiées. Je trouve que c'est une nouvelle démonstration du en même temps d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire le pass d'un côté le jour A et le lendemain, l'assouplissement des mesures. Donc, en fait, c'est toujours un coup comme ci, un coup comme ça. C'est pas très clair. Quoi.
On va y revenir dans un instant, juste après le rappel des titres. Plusieurs centaines d'amendements à examiner donc à l'Assemblée nationale sur le projet de loi étendant le pass sanitaire. Une course contre la montre, car l'exécutif veut avoir obtenu un vote avant la fin de la semaine. Plus de 21 000 nouveaux cas de contamination ont été recensés en 24 heures, en particulier chez les 12-29 ans, où le nombre de vaccinés reste très faible. L'affaire Pegasus, prise très au sérieux par l'exécutif, Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense exceptionnel ce matin pour évoquer l'espionnage et la cybersécurité. En Allemagne, Angela Merkel demande plus de restrictions sur la vente de ce type de logiciel espion. Une amende de 125 millions d'euros contre le fabricant de lunettes Luxottica. L'autorité de la concurrence épingle le premier fournisseur mondial pour avoir imposé en France aux opticiens des prix de vente au détail et leur avoir interdit de vendre sur Internet. En Chine, le bilan des inondations s'alourdit à Zhangzhou. 33 morts dans cette métropole de 10 millions d'habitants située au centre de la Chine. Certains responsables évoquent les pires inondations du millénaire. Les Bleus du foot ont raté leur entrée aux Jeux Olympiques. L'équipe de France, emmenée par Gignac, a été littéralement écrasé 4-1 par le Mexique.
Et les petites histoires olympiques. Jean-Michel Rascol sur RTL.
En 1980, l'URSS fait des Jeux de Moscou le symbole de sa puissance. Le pays remporte 80 médailles d'or, du jamais vu. Certaines pratiques, sans parler de dopage, ont avantagé les sportifs soviétiques, notamment dans le stade d'athlétisme. Ainsi, les lanceurs de javelot étaient avantagés par un stratagème aussi honteux que judicieux, Jean-Michel Rascol.
En 1980, l'URSS entend faire des Jeux de Moscou une démonstration de force quitte à bafouer l'équité sportive. Dans le stade de Loujniki, les soviétiques avaient par exemple imaginé un stratagème pour fausser l'épreuve du javelot. Le perchiste français Philippe Houvion, qui était présent, se souvient.
Ce grand stade de Moscou, ce stade monumental, avait quatre très grandes portes qui font varier les flux de vent. Et pour le javelot, par exemple, la direction du vent est très importante parce que le javelot s'appuie sur du vent de face comme les avions pour voler le plus longtemps possible. Et donc en fonction de qui lançait le javelot, puisque ça se fait dans la longueur du stade, ils ouvraient ou ils fermaient les portes monumentales du côté pour faire varier le vent, soit le faire porter un javelot, soit le faire partir sur le côté pour les autres.
Deux soviétiques prirent les deux premières places. Un certain Denis Kula fut même le seul à lancer à plus de 90 mètres. Un champion olympique pour le moins inconnu jusque-là.
Qu'on ne connaît pas avant et qu'on ne connaîtra plus après. Donc c'était son jour. Peut-être qu'il était ultra motivé. Hein. Il y a d'autres exemples que ça. Moi j'ai vu des trucs aussi au lancer du disque. Ils ont favorisé les athlètes soviétiques, ça c'est clair.
Sur le sautoir de la perche, un dispositif était censé avantager là aussi les athlètes de la mère patrie.
Il y avait un système de remontée de barre particulier là, qui était une paire de pinces qui remontait la barre le long des poteaux et qui venait la placer sur les taquets. Et quand les Russes sautaient, ils ne desserraient pas les pinces pour que la barre reste attachée. Bon. Mais il y avait tellement de triches, je me souviens. Les Jeux Olympiques de Moscou sont pratiquement les seuls Jeux Olympiques où il y a eu zéro cas positif, tout sport confondu, ce qui n'existe pas en vrai. Ça fait rêver, mais ça n'existe pas. Et on se posait pas la question à l'époque. Moi, ça fait seulement quelques temps que j'ai conscience que Les trois mecs qui étaient devant moi étaient probablement shootés. Bon, en athlée, il y a moyen de faire le coup des portes au javelot. Et effectivement, celui qui est lésé, il est lésé. Et ça fait 4 ans de sa vie qu'ils sont paumés, quoi, ou presque. Sa vie sportive, en tout cas.
À Moscou, les Soviétiques gagneront 195 médailles, 80 en or. Le boycott des États-Unis et d'une soixantaine de pays n'est donc pas la seule explication à cette hégémonie.
Jean-Michel Rascol avec Spencer Clairefeuille.
Jusqu'à 14h,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Rebière.
Et avec Sylvie qu'on retrouve, qui habite à Paris et qui est juriste, on parlait des assouplissements sur le pass sanitaire pour les adolescents, par exemple, ou pour les restaurants qui ne feront pas les contrôles d'identité. Vous vous disiez, c'est le en même temps à la Macron.
Exactement. Alors d'abord, je voulais dire quelque chose avant de parler du sujet. Je voulais dire qu'il y a quelques mois, on n'aurait jamais envisager ce pass sanitaire. Il y avait même des émissions qui sont passées à votre radio. C'était inimaginable. On critiquait les pays qui avaient mis en place, alors qu'on savait très bien, on connaissait déjà les dégâts causés par...
Emmanuel Macron lui-même ne l'imaginait pas, d'ailleurs.
Mais c'était impensable. Mmh. Aujourd'hui, petit à petit, on a fait évoluer les mentalités, on a accepté ce pass sanitaire. Mais alors, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on peut pas... C'est le en même temps de Macron, ce que je vous disais au début, c'est-à-dire qu'on peut pas dire oui, il y a un pass sanitaire, et en même temps, un jour on dit 45 000 euros d'amende, et puis le lendemain on descend à 7 500. On sent une certaine crainte. Enfin, je veux dire, je ne comprends pas très bien. Je pense qu'en fait, il faut être ferme, et on a l'impression qu'il y a un manque de fermeté. Moi, je suis pour ce pass sanitaire, mais je crois surtout qu'il faut donner des moyens de contrôle sérieux aux entreprises, aux restaurants, par exemple. On ne peut pas leur dire du jour au lendemain vous allez surveiller et contrôler. Il aurait fallu peut-être anticiper ce genre de choses en leur mettant, par exemple, entre les mains ou en leur mettant à leur disposition une sorte de terminal, enfin d'un appareil pour que lorsqu'ils passent, ils puissent en même temps scanner le document qui est remis par Émilie et qui nous permet de savoir si on a eu le Covid ou pas, ou les résultats d'un test PCR, et en même temps vérifier l'identité, mais que ça se passe vite et ça n'aurait posé aucune difficulté. Puis en même temps, il faut éduquer les gens, il faut que les mentalités changent, il faut que les personnes comprennent, c'est une nouvelle étape, on est obligé de passer par là. Il n'y a pas d'autre choix. Mais il faut aider les restaurateurs ou les cafetiers. Effectivement, je n'imagine pas les pauvres qu'il y ait une queue de 50 personnes pour aller boire un café, qu'on soit obligé de faire la queue pendant 10 minutes.
Mais justement, il faut donner les moyens. C'est très intéressant ce que vous dites, Sylvie. Et justement, on a un restaurateur en ligne qui nous appelle de Toulouse. C'est Stéphane. Bonjour Stéphane.
Bonjour Christelle.
J'imagine que vous partagez l'avis de Sylvie. Expliquez-nous comment vous êtes en train de vous organiser.
S'organiser, c'est comme le disait très justement Sylvie, s'organiser, c'est un peu compliqué parce qu'on est dans le flou et dans la contradiction en permanence. C'est-à-dire qu'on nous annonce un pass sanitaire effectif au 21 juillet. Et là maintenant,
c'est début août. Pour les restaurants, c'est début août.
Oui, mais bon, au départ, les clients se posent, enfin, nos clients.
Vos clients sont perdus parce qu'effectivement, c'est le 21 juillet, c'est les lieux de loisirs et début août, c'est les restaurants. Finalement, on mélange tout.
Voilà, donc ça a été très flou pour tous nos clients. Donc, ils m'ont appelé catastrophé hier. J'ai pas mon pass sanitaire. Est-ce que je peux venir? Est-ce que je peux pas venir? J'ai dit non, la loi sera effective à partir du 1er août. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Mais voilà, c'est encore une fois de l'inquiétude de l'incompréhension. Pour que ce soit pour les clients ou que ce soit pour nous, tous les restaurateurs. Maintenant, comme je le disais très justement Sylvie auparavant, c'est vrai que nous mettre à disposition les moyens qui seraient adaptés pour faire ce contrôle-là, mais avec grand plaisir, parce qu'on veut rester ouvert, on veut travailler. Tous les restaurateurs veulent travailler.
Il aurait fallu anticiper, il aurait fallu que... Enfin, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Le pass sanitaire, il est indispensable. Et je ne sais pas si vous partagez la même opinion que moi, mais au niveau de la santé, c'est indispensable pour éviter que ça prenne des proportions. Il ne faut pas se voiler la face. Ce delta, il est là, ce variant delta, et c'est dangereux. Mais il faut donner les moyens aux gens. On ne peut pas du jour au lendemain claquer des doigts et dire tout va changer. Non, il faut donner les moyens aux restaurateurs, aux cafetiers, aux parcs zoologiques, aux parcs d'attractions de pouvoir... permettre d'accueillir le public, mais en même temps de respecter
Stéphane, comment allez-vous le contrôler, ce pass sanitaire, vous ? Via une application ?
Non, j'ai l'application avec le QR code anti-Covid, mais après, le pass sanitaire, que ce soit sur papier, bon, on ne va pas demander la pièce d'identité au client, donc c'est assez...
Mais alors justement, ça c'était un assouplissement hier. Hein. Voilà, puisque tout. Le Premier ministre a dit non, on ne va pas demander aux restaurateurs de faire ça. Mais du coup, on se demande si ce n'est pas un peu absurde. Alors, on les contrôle ou on ne les contrôle pas ?
C'est pas moi qui viens de le dire, Christelle, mais c'est vrai que c'est... C'est encore une fois, on fait trois pas en avant, on en fait deux en arrière. Donc on sait sincèrement, on sait pas comment faire. On va le faire parce qu'on ne veut pas être tributaire d'une amende, on ne veut pas être tributaire d'une fermeture. Parce qu'on veut, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous restaurateurs, comme pas mal d'établissements recevant du public, rester ouverts. Donc pour nous, c'est la priorité. On est conscient que le variant Delta est bien présent sur notre territoire et notamment chez nous dans le sud-ouest. Il est là. Donc on en est tous bien conscients, mais on veut rester ouverts. Donc on va mettre tout en œuvre.